musique. Inouï.
Caravanana maximum. Ta gueule, ta gueule.
Je me fous du...
La maladie fait partie intégrante de nos vies. Quand tu ne diras plus ta vue.
For the
Bravo, quelle belle fin. Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste, 89.4 en région parisienne et partout ailleurs dans le monde, radio-libertaire.net. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres, émission consacrée aux musiques singulières et autres formes de création curieuses. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir à nouveau, parce que tu es déjà venu, Antonin, Antonin Triangle.
Ouais, c'est ça.
Et oui, tu es déjà venu, tu étais venu pour une carte blanche à Jean-Brice Godet pour un concert du Nouvel An, comme
exactement,
on
dit. Exactement, ouais. C'était le Nouvel An 2021, je crois.
Ouais, c'est ça. Ouais, c'était le Covid et tout ça.
Ouais. Ouais. Et j'étais déjà venu dans cette émission, je pense que c'était 2014 ou 2015, un truc comme ça. Ouais.
Oh là là, ouais. Avec Laurent peut-être ? Laurent Pascal, non ?
Peut-être qu'il y avait Laurent. Je me souviens plus. Je sais que j'étais dans un appart à Télégraphe, à rue de Belleville. Je me souviens.
Mais... D'accord, d'accord. Bon, alors en tout cas, tu es là aujourd'hui pour plusieurs raisons, notamment pour les concerts qui auront lieu à Son d'hiver. On en parlait la semaine dernière avec Fabien Simon. Mm-hmm. Et tu vas voir est-ce que c'est la soirée t'est consacrée finalement, oui ?
Bah. À moi, en tant que musicien, non, parce que c'est avant tout des projets collectifs. Après, c'est vrai que je vais avoir beaucoup de boulot, puisque y a une sorte de scénario qui s'organise autour de groupes de chœurs très chers qui vont jouer. Oui. Donc, c'est pas mal de travail.
Alors, on va en reparler. Mais avant, tu sais bien que dans l'émission, on commence par demander à nos invités quelle a été ta formation musicale.
Ah oui. La formation musicale, c'est un peu classique. Hein. C'est le conservatoire du 11e arrondissement, en clarinette classique. Et puis, à la formation un petit peu parallèle, c'était de jouer dans les bars du quartier avec mon beau-père qui est guitariste. Voilà, c'était surtout... Et en tout cas, il y a le côté académique, il y a le côté jouer tout de suite, toi, qui était très important.
Impro, quoi. C'est peut-être ça qui t'a formé à l'impro plutôt.
Ouais, oui, qui m'a pas formé en fait. D'ailleurs, je me souviens toujours de ça, de mon beau-père qui me disait bon, bah, tu as joué le thème, bah, maintenant continue et sans autre explication. Et j'ai longtemps pas fait de rapprochement entre ce qui se passait au conservatoire et ce qui se passait dans la musique qui s'appelait le jazz en fait que je jouais. C'est venu plus tard que j'ai compris ça veut dire ça et puis d'autres choses qui sont inconciliables.
Et alors bon bah moi j'aime bien aussi savoir ce que les musiciens musiciennes écoutaient plus jeunes, tout simplement pour voir comment, parce que dans notre émission c'est musique bizarre on va dire, hein, pour aller vite, musique un classal parfois tout ça. Et j'aime bien savoir ce qui fait que les gens dévient en fait vers tu parles de conservatoire, donc j'imagine que c'est pas forcément les musiques les plus aventureuses, quoique bon, ça peut être de la musique contemporaine, mais je pense pas que ce soit avec ça qu'on apprenne. Comment t'as dévié, qu'est-ce que t'écoutais plus jeune?
Moi j'étais je pense que j'avais un peu des goûts particuliers. Pour mes 10 ans, j'ai eu 3 CD. Il y avait un disque, je venais de commencer la clarinette, donc il y avait un disque de Benny Goodman, donc un disque de swing, assez classique, années 30. Et il y avait un disque de David Krakauer, de Klezmer un peu branché. Et un disque de. Et deux autres disques, un disque de Bourvil et un disque de Boris Vian. Voilà. Et ça, c'était un peu les 4 CD que je mettais. que je m'enregistrais sur les cassettes en glace de neige. Mais sinon, oui, j'écoutais beaucoup de jazz en fait.
Vraiment, c'est comme ça, ouais.
Je pense que j'ai consacré pas mal de temps à ça. J'en écoute un peu moins aujourd'hui, mais je pense que c'est mes oreilles ont été vraiment, en tout cas par cette musique américaine. À peu près, en plus, en suivant un petit peu la chronologie comme une bande dessinée, quoi. C'est-à-dire, apparemment, après, il y a ça, il y a Ridolfi. Je vais aller chercher ça à la bibliothèque. Et puis voilà. Et en fait, en découvrant un peu cette histoire-là. Mais donc, je sais pas si c'est une dérive ou je pense pas, puisque c'est quand même quelque chose d'assez. d'assez courant, surtout en France, la présence du jazz est institutionnalisée, tout ça. Je pense la dérive, elle est un petit peu, je pense, c'est un peu inverse, c'est-à-dire de découvrir tout ce qui se passait autour de chez moi et en ce moment. Ça, c'était un peu ça, sortir un peu de de son casque et de son Walkman, quoi. Ça,
ouais, c'est marrant, moi, j'ai un peu eu le même truc, quoi.
Ouais, c'est vrai.
Ouais, commencer par des trucs que personne n'écoute et puis revenir finalement, ouais. Qu'est-ce qu'on écoute à mon âge.
Ouais, et puis découvrir des choses trop tard, jamais trop tard, mais du coup avec d'autres oreilles. Et moi, j'aime bien, parce que c'est un peu le sujet de l'émission, j'aime bien me souvenir, alors il faudrait que je note un peu ça, mais j'aime bien me souvenir des premières fois où j'ai entendu des choses. Et c'est toujours assez émouvant de se rappeler de ça, surtout quand on pense avoir un goût sûr et tranché.
Ouais, c'est bien ça.
Et ouais, voilà, je me souviens bien la première fois que j'ai entendu Charlie Parker, la première fois que j'ai entendu Eric Dolphy, la première fois où j'ai vu des gens qui a priori savaient pas jouer de leur instrument dans ce que je pensais. Enfin, il y a plein de choses comme ça où d'un seul coup il y a quelque chose que ton oreille n'arrive pas à suivre ou à comprendre. Et ça, je trouve que c'est des moments que je souhaite vivre encore et encore.
peut-être que même que tu souhaites procurer aux auditeurs.
Après, c'est déjà pour moi. Après, si ça se répercute, c'est génial. Ouais.
Ouais. Ah bah oui.
Puis c'est beaucoup lié aussi aux conditions d'écoute. Parce que je pense pas que. Enfin, les découvertes musicales sont liées à des gens avec qui on est, à des lieux, à des manières. Et ça, je pense que c'est important, je me rends compte. Des manières que la musique a de surgir, quoi, dans quel cadre et tout ça. Et ça fait qu'on peut être bouleversé par la plus basique comptine, puisqu'elle arrive à 4h du matin dans un bistrot. Et ça, c'est inépuisable.
Ouais, c'est bien ce que tu. C'est ça me parle. Quel a été ton premier groupe, on va dire, en tant que professionnel? Et quand, en fait, à quelle période?
Je pense professionnellement dans le sens avoir des cachets et tout ça. Les premiers cachets déclarés, c'était avec l'ONG, en fait, l'Orchestre National de Jazz.
Ah ouais.
Parce que je l'ai rejoint très jeune et en fait j'ai découvert avec ça la vie de musicien, alors que c'était un peu fiction, mais en même temps voilà. Mais sinon il y a eu plein de groupes, plein de tentatives, avant ça des trios de jazz, des quartets de jazz, des pas mal de rencontre comment les musiciens se brassent de manière sans faire de groupe, quoi. Mais des groupes, c'est arrivé un peu quand j'avais 20 ans, et ça, c'est des groupes qui la plupart existent aujourd'hui encore, c'est-à-dire Grand Bazar, Watt, Novembre et l'Umlaut Big Band. Et j'en oublie sûrement, mais ouais.
Ah ouais, bon, on va voir ça pendant l'émission. Mais alors oui, justement, parlons de Novembre, mm-hmm. Quartet Novembre, qui sera donc à Arcueil, mm-hmm. le 31 janvier.
Ouais. Une bonne marche à pied, c'est génial. J'espère qu'il neigera.
Ah bah oui, j'espère qu'il y aura beaucoup de monde à la grève. Alors hier, on en parlait en rentrée, ça s'est bien passé hier. Hein. Il y avait beaucoup de monde et puis il y avait pas, les casseurs n'étaient pas là.
Ouais.
Les flics n'étaient pas là,
ouais.
Donc ça s'est très bien passé. Quoi. Je sais pas d'ailleurs si. Bon, c'est un peu ennuyé quand même, mais bon. peux-tu nous présenter tes acolytes dans le quartet Novembre?
Oui. Alors, il y a Thibaut Cellier, qui est contrebassiste, originaire de Rouen. Il y a Sylvain Darifourc à la batterie, et Romain Clair-Renaud au piano et au clavier.
Et alors, tu dis, oui, alors effectivement, Thibaut Sellier, fait-il partie des vibrants, des fricheurs?
Oui, complètement, il fait partie, il est à l'origine, avec sa bande, des vibrants, des fricheurs, oui.
Ouais, on a fait une émission fin décembre autour de ce collectif de Rouen, de cette belle ville de Rouen. Et alors, je ne sais pas si on a précisé qu'on a commencé l'émission avec Novembre, et puis on écoutera un ou deux autres morceaux de Novembre plus tard. Comment s'est créé le groupe?
Je pense vers 2010. En fait, on jouait assez souvent avec Romain Clarenot, piano. Et on s'est rencontrés au CNSM. Et on a décidé de jouer, d'organiser une tournée avec une formation. On a emmené avec nous Thibaut Sellier à la contrebasse et Élie Duris, qui était le premier batteur de Novembre.
Ah oui, d'accord.
Et pendant les 10 premières années, en fait, on peut dire. Au départ, c'était un groupe de jazz contemporain. On écrivait de la musique, on essayait de la jouer, on improvisait, tout ça. Et en fait, progressivement, ça a un petit peu changé dans notre manière de faire. Et c'est un truc qui est... pas dont je suis fier, mais la manière dont on a de travailler ensemble avec Romain et de écrire ensemble, c'est particulier à nous deux, c'est-à-dire qu'on se propose des choses, on les joue, puis en fait des fois on les digère ensemble, avec le groupe on les transforme, des fois il en reste plus qu'une seule phrase et puis cette phrase on va la mettre ici et là et puis là, et puis en fait il y a un accord d'un morceau qui va devenir un nouveau morceau, et on n'arrête pas comme ça de se faire des passes et c'est assez, c'est j'aime bien cette petite cuisine.
Pas trop bien en parler, mais Et est-ce qu'il y a des disques de Novembre?
Alors, il y a un premier disque qui s'appelle Calque, qui est de 2013, qui est un disque live à Rouen. Et rien, jusqu'à ce mois-ci, puisque le 31 janvier sort le nouveau disque de Novembre, qui s'appelle Encore, dont on a entendu le premier morceau.
Ah, d'accord. Bah, je n'avais pas compris que c'était une soirée de réalisation.
Y a beaucoup de choses qui tombent là, en fait. Et non, mais c'est aussi, il faut dire que je suis un peu lent à sortir les choses. Et en fait, y a beaucoup de choses qui se rejoignaient à cette date-là. Et la grève nationale en fait partie.
Alors, on reviendra sur ton rapport au théâtre tout à l'heure.
Ouais.
Mais tu sais que nous recevions Fabien Simon la semaine dernière.
Ouais.
Et il nous a parlé d'un spectacle, donc Novembre, qui est plus qu'un concert. Mmh. Et qu'en est-il? Tu peux peut-être nous expliquer le titre du spectacle du 31 janvier, donc sera Apparition.
Ouais. Et ben c'est une forme. Alors on appelle ça Apparition. C'est une forme de concert où on s'amuse un petit peu à déplacer le regard et les attentes de façon. Enfin, en fait, c'est un, je sais pas comment dire. C'est un concert un peu multiple. Il y a un effet de mise en abîme. Il y a un peu plusieurs concerts dans le concert. C'est-à-dire qu'en fait, il y a, sans tout dévoiler, il y a trois formations un peu distinctes. Et ça commence un peu comme si il y avait plusieurs concerts qui se déroulaient en même temps, sans qu'il y ait apparemment de rapport. Et puis après, les choses se rejoignent un peu différemment. Mais en fait, on a commencé à faire cette forme-là quand c'était le festival Banlieue Bleue, nous avait demandé de faire un hommage à Ornette Coleman. Et moi j'avais dit d'accord, j'aime pas trop les hommages, mais d'accord si on a le droit de pas mettre de musique d'Ornette Coleman dedans. Et en fait c'est venu un peu cette idée d'apparition, c'est-à-dire de comment faire apparaître d'autres musiques, des musiques extérieures dans une forme de concert. Ça fait que dans un morceau naît un autre morceau qui n'a rien à voir et qui va laisser la place à un autre, etc. C'est assez ça se passe un petit peu comme ça. Et un peu comme un... J'aime bien l'image du train fantôme, sauf que là, on est... Nos sièges bougent pas, mais en tout cas, il y a des choses qui apparaissent un petit peu aussi de tous les côtés de notre tête. Voilà.
Ah oui, alors, est-ce qu'il y a une notion de scénographie?
Scénographie, oui, mais pas dans le sens de décor, parce qu'il n'y a pas de décor. A priori, c'est plutôt le mobilier habituel des concerts. Sauf que, effectivement, la scène est occupée de manière un petit peu différente, en tout cas, un petit peu pas forcément dans le bon sens. Voilà, elle est un petit peu découpée, elle peut être découpée de gauche à droite, en profondeur aussi. Il peut y avoir des choses les unes derrière les autres. Voilà.
Ok. Alors, il me semble que pour le 31 janvier à Arcueil, mm-hmm. il me semble qu'il y aura aussi des invités. Est-ce que tu peux nous en parler?
Alors, ces invités, c'est... parce que dans cette forme, on part du principe qu'au départ, c'était un concert de novembre, comme il a pu en avoir lieu beaucoup. Apparaissent des groupes distincts, différents. Et donc, ces apparitions, elles sont incarnées, puisque c'est quand même des vraies personnes, par un groupe qui s'appelle Brib 4, qui est un groupe que partage Romain Clairenot avec Geoffroy Gesser, Linda Ola et Yann Joussin. Donc ça, c'est un premier aspect des invités qui est plutôt un son rock électrique. Et nous avons aussi un trio de violoncelle qu'on a appelé pour l'occasion les Imperturbables, qui sont Gulrim Choi, Elena Andreev et Myrti Edsel. Et donc en fait, on a trois, en tout cas au départ, trois groupes qui ont a priori rien à voir ensemble, c'est-à-dire un groupe de jazz acoustique, un trio de musique de chambre et un groupe de rock. Et en fait, il va se passer plein de choses entre ces trois choses.
J'imagine bien, oui, pour avoir vu certains de tes spectacles, que il va se passer des choses, ça c'est clair. Alors, je propose qu'on écoute un extrait de... parce que c'est un peu long, d'un morceau qui s'appelle Miniature.
Ça dépend. Il y en a un qui est celui qui s'appelle Letko Flash, qui dure quelques secondes. Et Miniature, on peut l'arrêter. Il y a plusieurs. En fait, c'est des petits morceaux miniatures qui s'enchaînent. Voilà.
D'accord. T'as raison. On va écouter Let's Go Flash et puis peut-être Miniature pour la fin de l'émission.
D'accord.
Oui, effectivement, c'est court. C'est très court. Eh ben, bravo. Novembre. Donc, on retrouvera le groupe Novembre en fin d'émission. Mm-hmm. Mais là, on va parler de Watt, si tu veux bien. Une assez ancienne formation également, il me semble.
Oui, elle date de, je pense, 2011 ou 2012, quelque chose comme ça.
Ah oui, quand même. Ouais, alors, peut-être tu peux nous, à nouveau, nous parler de tes acolytes.
Oui, alors, il s'agit de un groupe de quatre clarinettes. Quatre clarinettistes qui s'appellent Jean-Brice Godet, Julien Ponviane et Jean Douze Tessier, et moi-même. Et c'est un groupe qui est né au départ sur une musique qu'on improvisait, enfin qu'on improvise toujours, autour des sons longs de l'instrument de la clarinette. Donc en fait, on faisait une forme d'un peu près 50 minutes, beaucoup avec la respiration circulaire, c'est-à-dire le son continu, le souffle continu à l'instrument, et en jouant, en partant d'un unisson le mieux qu'on pouvait, et en se séparant le plus lentement possible les uns des autres, donc la musique évoluait très lentement. Et comme ça, en fait, pendant presque une dizaine d'années, on a fait des concerts, et il y a une sorte de composition collective qui est née de ça, qui changeait un peu selon les endroits, mais où on avait nos repères. Ouais. Ça s'appelle Watt.
Ouais. Et t'as répondu, je voulais t'interroger sur la technique, oui, du souffle continu.
Ouais.
Et ce que je me souviens plus, c'est quatre clarinettes, mais c'est pas les quatre mêmes clarinettes.
Il y a quatre clarinettes et deux clarinettes basses.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Jean-Brice et moi, on joue la clarinette basse aussi, et Jean aussi d'ailleurs, il en joue des fois. Ouais.
Ouais, donc c'est comme tu l'as dit, c'est improvisé. Alors j'ai assisté au moins une fois dans mon souvenir à Watt. C'est vraiment impressionnant. Hein.
C'était où?
Et il me semble. Alors oui, je voulais savoir le nom Watt. J'ai lu que c'était une référence à Samuel Beckett. J'étais un peu étonné.
Non, c'est pas vraiment une référence. Si, enfin, en fait, on a trouvé ce nom Watt, c'était au départ en relation avec l'inventeur de la machine à vapeur. Et en fait, on a découvert qu'il y avait un livre de Samuel Beckett qui s'appelait Watt, et on l'a trouvé complètement génial. Donc on l'a invité aussi, mais.
Ah ouais, d'accord. Oui, c'est un bon tuyau de lecture, ça, alors.
Ouais, c'est complètement fou.
Et alors, il me semble également. Qui a été à l'initiative du.
Je crois que c'est Julien Pondiane qui nous a rassemblés. Enfin, oui, c'est vraiment lui, parce que à cette époque-là, il travaillait beaucoup sur les unissons et les battements et ce genre de phénomène acoustique. Et d'ailleurs, il continue un peu, mais c'est pas que.
Et pour tout dire, tu ne m'étonnes qu'à moitié, hein, le projet. Et ouais. Voilà, Julien Pombiane, quelqu'un qui aime bien travailler dans la lenteur,
Oui, c'est lui qui un peu qui nous a amené là-dedans, parce qu'on est plutôt on est un peu speed des fois.
Un peu exalté parfois même. Et effectivement, on l'a invité il n'y a pas si longtemps que ça pour Trip, que j'adore.
Ouais.
Ah ouais, ouais. Et alors, par contre, il me semblait, je ne sais pas si je vais dire une bêtise, parce que il me semblait avoir vu un projet concernant ce quatuor Watt, mais c'était juste avant le Covid. Alors du coup, je ne sais pas si ça s'est fait, mais un projet dans lequel vous, justement, pour sortir de ce que tu viens d'expliquer, l'improvisation de 50 minutes, vous faisiez appel à des compositeurs.
Ah oui, oui. Bah là, en fait, c'est complètement d'actualité, parce qu'on vient d'enregistrer ces pièces. Alors voilà, la question de Watt, c'était ça, c'était jusqu'à quand on continue à faire ça, puisque en fait. Les dynamiques un peu culturelles, institutionnelles sont plutôt celles du projet, c'est-à-dire de monter des nouvelles choses et d'en parler et tout ça. Et nous, on faisait tout le temps la même chose. Et à la fois, c'est génial, et à la fois, on se disait, mais est-ce que c'est possible de se déplacer, de composer, tout ça? Et on a fait quelques tentatives de collaboration, mais ça n'a jamais été plus d'une fois à chaque fois. Et là, on s'est dit, bon, on tente le coup. C'était un peu pas au moment du Covid. Bon, je sais plus, mais en tout cas, on s'est dit, voyons ce que ça fait. Et donc on a commandé des pièces à quatre compositeurs, un peu dans l'optique de faire des pièces circulaires, c'est-à-dire des pièces qui puissent se boucler sur elles-mêmes, puissent écouter en boucle, et notamment sur on l'a pas encore réalisé, mais notamment sur des cassettes à bande infinie qui se rejoignent.
Voilà. Mais alors, comment c'est possible ça?
Ça se fait très bien. C'est un système où la bande magnétique de la cassette se rejoint aux deux bouts, donc elle continue à tourner.
Parce que moi, je me souviens d'avoir. C'est la quête de mon adolescence, ça, de faire des cassettes bouclées, mais j'arrivais à faire la boucle, tu vois.
Ouais.
Mais pas toute une cassette de 40 minutes.
Quoi. Non, pas 40 minutes, mais on peut aller jusqu'à 15. Mais voilà, il y en a ça se vend, tu peux en acheter à 2, 3, 4.
Super.
Ouais. Et donc, on a fait ces propositions à Caroline Marceau, à Carl Nejlen, à Kali Malone et Le dernier, pardon, Léo Duplex.
Ah bah oui, Léo, oui, bien sûr.
Et donc, on a reçu des pièces de Léo, Caroline Marceau et Karl Nechelen. Et pas de Kali Malone, mais par contre, nous, on en a fait une.
Ah bah ouais.
Voilà. Entre nous, parce qu'on avait, on avait des jours de répétition, et en fait, on a commencé à faire... on va en faire une. Donc on en a fait une. Et toutes ces pièces, on les a enregistrées en décembre, donc c'est un peu tout frais. Et ah oui, et aussi parce que, toujours dans cette idée de boucle infinie, on travaillait au théâtre de l'Aquarium, qui est un lieu de résidence et de festival. Le festival qui s'appelle Bruit, il commence ce week-end, je crois. Que je conseille vivement, en théâtre, en musique, en tout, c'est super. Et donc on était dans ce théâtre et il y avait un Revox, comme souvent il y a dans les théâtres, puisque c'était comme ça qu'on diffusait les sons d'ambiance, les voix off et tout ça, ouais. C'était avec des Revox. Donc en fait, on s'est amusé à bricoler une très grande boucle de bande Revox et à s'en servir comme une pédale de freeze, un peu comme quelque chose qui nous permettait d'avoir un son continu sans forcément toujours l'alimenter. Et avec ce grain de la bande et des aléas de son parcours dans l'espace aussi, puisque c'est un, voilà. Et donc, on a fait une pièce avec cet instrument Revox. Voilà, que là, on peut écouter un extrême qui est vraiment seulement monté, pas encore édité, mais bon, ça donne un peu une idée.
Un inédit donc dans les oreilles libres. Merci beaucoup Antonin. On écoute donc le quatuor, hein, ou quartet, quatuor du coup.
Comme tu veux.
Peu importe. What? Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres, consacrée aujourd'hui au clarinettiste Antonin Trihoang. Et on vient d'écouter le Quatuor, What?
Et c'était une... Alors, en fait, c'est une pièce qu'on a montée, nous, à quatre, et qui utilise un morceau de la composition de Léo Duplex. Les quatre accords qu'on entend au début sont de Léo Duplex. Voilà.
Ah, d'accord, d'accord. Ok, alors on va parler un petit peu du théâtre, si tu veux bien. Et à quand remonte ton intérêt pour le théâtre? Comment s'est opéré ce rapprochement avec cette forme d'expression?
Le théâtre, c'est venu assez tôt, parce que j'ai eu la chance, quand j'avais 10 ans, 11 ans, de jouer dans une pièce de théâtre qui a joué pendant 6 mois. J'avais un rôle d'enfant et je me suis retrouvé sur scène comme ça. Et c'était une expérience très très marquante, surtout à cet âge-là. Et après, j'ai fait beaucoup plus de musique, mais je m'étais toujours dit que j'aimerais bien retrouver ça quelque part. Et j'ai commencé à retourner aller voir des spectacles de théâtre vers 2012-2013, et je suis tombé sur un spectacle au Bouffe du Nord qui s'appelle toujours Le Crocodile Trompeur, Didon est né. C'était un spectacle de la compagnie La Vie Brève, mis en scène par Samuel Achache et Jeanne Candel. Et en voyant ça, je me suis dit, mais je veux faire ça.
Ah ouais, c'est super. Mais justement, ma question après, c'était comment s'est fait la rencontre avec Samuel Achache?
Et on se connaissait d'amis en commun, et moi, j'ai jamais osé lui dire que je voulais travailler avec lui un jour. Et ça s'est fait qu'il y a eu un remplacement qui devait se faire pour une tournée en Russie avec Le Crocodile Trompeur, Didon est né. Et il m'a proposé de le faire. Et c'est comme ça qu'on s'est connus. Et ensuite, la collaboration a continué. Et continue encore, et pas mal de choses.
Alors peut-être il faut dire que Samuel Achache, tout comme Jeanne Candel, sont, on a affaire à des spectacles de théâtre musical, enfin, où la musique est très présente. Et alors moi, je t'ai vu dans une pièce qui s'appelait La Chute de la Maison, théâtre des quartiers d'Ivry. Et j'étais étonné, parce que je m'attendais à te voir jouer de la musique. Et en fait, tu joues, t'as un rôle d'acteur. Alors donc j'aimerais bien que tu nous parles de ton degré d'implication dans ces pièces, parce que tu n'es pas seulement musicien.
Ça change d'une pièce à l'autre. Jeanne Candel et Samuel Achache, ils sont assez malins et ils arrivent très bien à faire jouer des non-comédiens et à faire s'impliquer des comédiens dans la musique, des musiciens dans l'écriture, la dramaturgie, tout ça. Et donc en fait, pour peu qu'on s'y intéresse et qu'on s'implique, on peut se retrouver à avoir tout un texte à apprendre. Et c'est ce qui arrive des fois sur des spectacles. Et donc il y a dans celui-là c'est plus particulier, parce que j'ai remplacé un comédien au cours des répètes. Donc mais sinon, en commençant les créations, comme c'est de l'écriture, ce qu'on appelle l'écriture plateau, c'est-à-dire que l'écriture musicale, le texte, la scéno, tout ça se fait en cours de travail, eh bien on s'embarque pour un résultat qu'on ne connaît pas. Donc peut-être qu'on aura des kilos de texte, peut-être qu'on fera taper sur des cailloux, peut-être qu'on ne fera pas grand-chose, mais on ne sait pas à l'avance, ça dépend de ce qui se passe dans les répétitions.
Ah bah oui, j'avais une question là-dessus, justement, pour avoir vu des spectacles de La Vie Brève, oui, on sent bien que c'est écrit collégialement.
Oui, complètement, D'ailleurs, les spectacles, ils sont co-signés par tous, des costumes à la scéno, tout ça. Donc c'est, sur ce point de vue-là, c'est vraiment collectif. Après, en tant que metteur en scène, ils sont plus exposés aussi. C'est aussi eux qui prennent le risque, c'est eux qui font les choix, c'est les qui font le final cut aussi, des choses-là.
Ouais, donc
y a quand même de la hiérarchie dans ce sens-là, quoi.
Alors tu dis, mais il y a quand même, est-ce qu'il y a quand même un argument de départ?
Il y a des de grandes idées. Souvent il y a des lectures en commun, des schémas plus ou moins précis, mais non seulement ils peuvent changer en cours de route, mais on est sûr de de rien, sauf peut-être des fois des grands principes. Par exemple, le dernier spectacle qu'on a fait, qui est en jeu en ce moment, qui s'appelle Sans Tambour, qui sera au Bouffe du Nord fin février. Celui-là, il se basait sur la musique de Schumann. Donc déjà, ça c'est resté quand même, ça a été tout un travail qu'on a fait. Oui.
Schumann. Ouais,
mais ouais. Moi, avant de travailler avec eux, je pensais pas que je me pencherais sur de la musique classique ou de la musique baroque. Schumann, je pensais que j'aimais pas. Et en fait, ça m'a complètement déplacé sur plein de choses, dans le regard que j'avais sur ça, enfin sur ce qui était possible de faire, de se permettre, et de l'intérêt qu'il pouvait y avoir à reprendre des vieilles choses, entre guillemets. Et donc ouais, c'est étonnant de passer de Watt à Schumann, mais en fait ça il y a aucun problème.
Schumann, il est cool.
Je sais pas s'il est cool, mais il est bien par jour, en tout cas.
Eh ben, écoute, quelques mots sur. Alors, c'est le spectacle qui tourne en ce moment, je pense, Sans Tambour. Mm-hmm. J'ai lu qu'il s'agissait d'une destruction d'une maison, mais ouais, peut-être pas seulement.
Bah, ça, voilà, par exemple, c'est typiquement l'argument du départ. Après, en cours de route, ça change un petit peu. Mais effectivement, il y a une maison qui se démolit assez vite. Et donc oui, il y a tout un jeu sur les ruines, sur ce qui reste, sur ce qu'on reconstruit, et ouais.
Alors on te demandera ton agenda en fin d'émission, tu as tout le temps de réviser les dates et tout ça, ouais. Mais tu sais, quelques mots sur le théâtre musical, y a des lieux dédiés à ce genre, y a-t-il des lieux, d'ailleurs je dis ça mais j'en sais rien, y a-t-il des lieux dédiés au théâtre musical, est-ce qu'il y a un milieu, on n'en parle pas souvent dans cette émission-là, éclaire-nous un peu sur le théâtre musical.
Mais en fait je ne sais pas trop, parce que le terme théâtre musical, il est associé à des choses qui ont été faites, qui se sont faites... autour de compositeurs comme Mauricio Kagel, Georges Apergis et tout ça. Ah oui. Et je pense que c'est un peu des visions différentes, parce que ce théâtre musical-là, il est plus lié à la composition. J'ai l'impression que dans ce qu'on fait avec Sam et Jeanne, on part pas forcément d'une composition. Enfin, il y a une manière un peu différente de faire, et je pense que ça se rapproche un peu. Enfin, c'est un petit peu une référence commune de ce que fait Christophe Marthaler. Je sais pas si tu connais ce metteur en scène suisse qui inclut la musique de manière très forte dans ses spectacles. Mais voilà, c'est pas. Je sais, le milieu du théâtre musical, franchement, je sais pas, et je sais pas s'il faut qu'il existe ou.
Ah bah, d'accord.
Mais ça peut se faire partout, puisque de toute façon, un concert peut être. Si s'accorde au lieu où il est, c'est un spectacle vivant, ça peut aussi déborder sur le théâtre, mais on sait pas où est vraiment la limite. Hein.
Et alors on a la chance d'avoir avec toi quelqu'un qui justement évolue dans des milieux distincts, avec la musique, tu joues dans des salles de concert, avec le théâtre dans des théâtres. Est-ce que ton activité théâtrale nourrit quelque part ton activité musicale de musicien?
Oui, beaucoup. En tout cas, pour ce qui est de composer de la musique. Je pense que beaucoup. Pourquoi ? Parce que souvent composer de la musique, ça peut être une activité solitaire, et on est un peu dans une espèce d'abstraction de la musique. Il faut qu'elle, enfin en tout cas dans une certaine manière de faire, on l'imagine dans un environnement calme avec pas beaucoup de choses qui puissent nous en détourner, des espèces d'écrans comme ça, et où on peut entendre les sons qu'on souhaite. Et je me rends de plus en plus compte que, en fait, pour imaginer de la musique, j'ai besoin de savoir où c'est fait, comment est l'endroit, qui sont les gens qui y vivent, comment ça sonne, et s'il y a des perturbations extérieures, voilà. D'utiliser en fait tout... de pas enfermer la musique à une chose qui soit soit dans un casque ou soit dans une salle de concert avec une acoustique exceptionnelle. Parce qu'en fait, c'est pas intéressant. Enfin, je trouve ça pas très moins intéressant maintenant.
Mmh. Ouais. Alors, pour Chewing Gum Silence, je crois que tu étais le créateur du spectacle.
Ouais, oui, c'était une demande du festival Banlieue Bleue qui voulait il me proposait de faire un spectacle jeune public, qu'on appelait ça jeune public. Et j'étais tout de suite très partant et j'ai proposé à Samuel qu'on le fasse ensemble. Et voilà, c'était l'argument, c'est un spectacle qui est sur les mélodies. Ouais. Et ça se passe dans un univers un petit peu fantastique, où dans l'endroit où on stocke toutes les mélodies du monde.
Ah oui.
Et donc chaque mélodie est enfermée dans un carton qui est stocké, rangé et étiqueté. Et donc avec mon camarade Michel qui est joué par Thibaut Périard, on est un peu des travailleurs dans ce centre de stockage, donc on s'occupe de toutes les mélodies du monde. Et en fait il y a un personnage incarné par Jeanne Souzine qui d'ailleurs joue ce soir et samedi et dimanche, qui fait un spectacle au Cirque Électrique. Donc elle entre dans ce monde parce que elle cherche la mélodie qui lui permet de dormir. Et dans ce périple, il y a plein d'accidents qui arrivent, notamment la mélodie Joyeux anniversaire est brûlée.
Ah merde.
Puisqu'elle est, en fait elle est trop vieille et elle est trop souvent mal chantée, donc elle finit par périmer et prendre feu. Donc on est un petit peu dans l'embarras et on essaye de fabriquer une nouvelle chanson d'anniversaire.
Ah, génial.
Ça, c'est l'extrait.
Eh ben, on écoute un extrait qui s'intitule...
Voilà, ça s'appelle Zani. Ça s'appelle Nouvelle chanson d'anniversaire ou chanson d'anniversaire numéro 2.
Ah. D'accord.
Nani.
Voilà, bon anniversaire à tous les gens qui sont nés le 20 janvier.
C'est ça, hein. Bon anniversaire à tous. Et il y a d'autres d'ailleurs chansons d'anniversaire dans le spectacle. Et là, on est en train de préparer un livre-disque de ce spectacle, donc là, une version papier et enregistrement. Et la partie livre sera faite par Bonnefrit, un illustrateur, dessinateur, tout. Ouais.
Très très bien. Alors, tu sais que moi, en 2019, j'y suis allé voir dans une église.
Ah oui.
Je le confesse, sur Radio Libertaire, Radio Sans Dieu Sans
Maître. Incroyable.
Je suis allé voir dans une église, l'église Saint-Eustache, pour être précis.
Ouais.
Le spectacle La Disparition.
Mmh.
Alors, c'était vraiment super bien. Mais quelle fut la genèse de cette création? Donc, c'est
ouais.
toi qui en étais la,
ouais.
le créateur. Hein.
Ouais. Bah, je ne sais pas comment c'est arrivé. Mais il se trouve que. Je ne sais pas. D'ailleurs, j'ai jamais su. J'ai jamais pu tirer ça au clair. Puisque après, ça s'est pas reproduit. J'ai eu une commande du Festival d'automne à Paris. Qui m'a proposé de faire une pièce pour l'édition 2019.
Ouais.
Dans l'église, enfin, il y avait plusieurs lieux possibles, et c'est Joséphine Markowitz, qui était la directrice de la musique, qui m'a proposé, et je me suis retrouvé dans les baskets, dans le costume d'un compositeur du Festival d'automne, ce qui n'était pas forcément... mon objectif au départ, mais du coup j'ai pris ça très à cœur et ça m'a permis de faire plein de choses que dont que je rêvais.
Ah oui, ça je confirme qu'il y avait plein de choses, plein de choses étonnantes même.
Et d'ailleurs, bah, Saint-Eustache, ouais, bah voilà, déjà lié à ce lieu qui est une église très particulière,
ouais.
qui a une histoire jusqu'à aujourd'hui très forte. Qui était une foire à bestiaux après la Révolution, quand même aussi. Qui n'a pas été qu'une église. Et qui maintenant travaille beaucoup avec les sans-abri.
Ouais.
Et ouais, donc ouais, ce spectacle qui s'appelle Disparition, qui était un petit peu en regard d'apparition.
Bah oui.
Voilà. Voilà, qui était un spectacle musical. Où en fait on voyait quasiment, enfin il y avait un orchestre, on était une dizaine, et on ne voyait quasiment que une soliste, comment j'appelais la soliste, qui était Prune Béchaud au violon.
Ah oui.
Et en fait tous les sons se passaient dans l'espace de l'église, avec des sons très loin, très très forts, des sons très ténus devant, juste devant les gens. Et les gens, ils étaient alignés le long de la nef, face à face.
Ouais.
Comme un peu un podium. Ouais. Et donc il y avait plein de choses, plein d'idées que je voulais faire. Enfin, de toute façon, c'est un peu une constante en ce moment, c'est qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on voit pas, qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on n'entend pas, et toutes les combinaisons de ça. Enfin, voilà.
Ouais, ouais. Et alors du coup, est-ce que ce spectacle a été joué dans d'autres lieux?
Non, pas du tout. Alors là, bah, ça, c'est complètement le comment on dit, pas le système des commandes, mais c'est-à-dire c'est des one shot in situ. Voilà, le problème aussi quand on veut faire des choses in situ, c'est que soit on en recommence une autre,
ouais.
soit c'est difficile de refaire au même endroit. Donc ouais, non, ça n'a pas eu lieu ailleurs. Il en avait été vaguement question, mais non. Et par contre, il y a un enregistrement qu'il faudra que, donc, enfin, il faudrait que je m'occupe d'en faire quelque chose, parce que je pense qu'il est pas si mal et qui rend. C'est difficile aussi parce que en enregistrement, il n'y a pas qu'un seul point d'écoute. Et là, ça se pose la question aussi là pour Apparition, qui va être normalement, oui, qui va être capté par Radio France. Alors que, voilà, où est-ce qu'on met les oreilles?
Ah bah oui. Ah, ils ont beau être libres,
voilà.
c'est un peu trop.
Et donc ouais, comme pas mal des choses que j'ai faites finalement, c'est en one shot, two shot.
Ah ouais. Ouais. Ouais, c'est beaucoup de travail pour une fois.
Ouais, ouais. Mais oui. Mais d'ailleurs, de toute façon, c'est tellement beaucoup de travail. Enfin, ce genre de choses, moi personnellement, ça, à la fin, j'ai envie de me reposer un an, quoi. Donc, ça, c'est pour ça que j'ai pas forcément l'énergie de rebondir et de le vendre ici ou là. Ouais.
Tu vas pas te reposer du tout, tu vas bosser jusqu'à 70 ans.
Voilà.
Ouais. Mais non, on va gagner.
Ouais.
Ah ouais, je t'ai vu, alors je te dis hors antenne, mais en préparant l'émission, je me rends compte que j'ai vu plein de choses avec toi, et notamment l'orchestre La Sourde. Qu'est-ce que cet orchestre?
Bah voilà, bah c'est un orchestre qu'on a monté à partir des musiciens qui gravitent autour des spectacles qu'on fait avec Samuel et Jeanne. Samuel Achache et Jeanne Candel. Et en fait, c'était au départ le rêve de Samuel Achache de monter un orchestre. Et on l'a fait, il est dirigé à quatre, avec Ève Risser, Florent Hubert, Samuel Achache et moi. Et donc on a monté cet orchestre. Alors voilà, je précise que c'est aussi propre à l'énergie et la... ouais, la persévérance de Samuel, c'est qu'il m'amène à monter des orchestres de 17 ouais. personnes que enfin, jamais j'aurais pensé faire ça. Et donc on a monté cet orchestre dans le but de d'en faire un orchestre complètement scénique, c'est-à-dire qu'il puisse être mobile, qu'il y ait certains qui puissent être des acteurs, et de tout nous permettre. Et ça fait partie aussi d'un objectif que j'aimerais réaliser, c'est d'avoir presque un temps comparable pour travailler de la musique que celui du théâtre. Donc un peu l'objectif aussi, c'est d'avoir un orchestre, c'est de pouvoir travailler comme on faisait au théâtre, c'est-à-dire non seulement longtemps et en essayant des choses avec pas mal de gens, et aussi de pouvoir le jouer plusieurs fois de suite dans un même endroit. Et ce qu'on a réussi à faire, puisqu'on a joué une semaine au théâtre de l'Athénée, et maintenant il tourne, et voilà. Et ça s'appelle Concerto contre piano et orchestre, et c'est adapté d'un concerto de Carl Philipp Emanuel Bach.
Bach,
ouais.
Bravo. Alors c'est pas du tout ce qu'on va écouter. Je te laisse nous présenter, nous parler. Alors c'est un inédit sur Radio Libertaire. Ouais. Merci encore Antonin, mais présente-nous, parle-nous de ce qu'on va écouter là.
Bah j'ai pensé à amener ça parce que en fait, c'est un peu à la suite de Chewing Gum Silence et tout ça. J'aime bien. Enfin, ça vient un petit peu avec le temps. Je deviens un petit peu une sorte de compositeur public. C'est-à-dire qu'on me demande des... on me fait des commandes de chansons, de choses comme ça. Et d'ailleurs, c'est un truc que j'aimerais bien développer. Et pas plus tard qu'hier, je faisais une chanson pour un ami, pour envoyer à quelqu'un qui lui était cher, donc on faisait une chanson. Voilà. Et là, c'était né pendant le confinement, c'est le fils de Julien Ponviane, qui s'appelle Elliot, Julien Ponviane qui est dans Watt et dans plein de choses, on a fait pas mal de choses ensemble, qui me demandait de lui faire une chanson sur les voitures. Et donc j'ai fait une chanson sur les voitures, un sujet que je connaissais pas trop à l'époque. Et en fait, il y a 2 ans, quand on avait fait le Nouvel An, on avait passé cette chanson sur les ondes de... Donc ta voiture, sur les ondes de Radio Libertaire. Et il avait entendu ça à la radio et il s'était empressé de m'en demander une autre.
Ah c'est ça, d'accord, parce que j'allais dire, ouais, c'est pas le titre là, ouais.
Et donc il m'en a demandé une autre et puis encore une autre. Et la dernière, c'est celle-là. Et tu peux la mettre.
Eh ben alors c'est ton chat.
C'est maison.
On l'avait dit à Elliot donc.
Salut Antonin, je sais que t'es très occupé. Est-ce qu'en fait vraiment tu peux nous faire une musique de chat?
Les chats. Les chats. Les chats, les enfants, les chats.
chats sont doux et gentils, surtout à la nuit tombée quand c'est l'heure de dormir. Mais ils sont très énervants quand le jour se lève et qu'on voudrait encore dormir. Ils grimpent et collent contre nous, jouent leur nez mouillé pour nous empêcher de dormir. En ronronnant comme des camions, ils vous disent d'abandonner l'idée de dormir. Les chats. Vous levez les stallons dans vos jambes, ne tombez pas, vous êtes dans le pâté. Il disparaît mais déjà vous l'entendez miauler là-bas pour vous abattre. Là dans la cuisine il essaie déjà d'ouvrir le placard avec ses pâtés. Vous ne serez pas tranquille tant que vous ne lui aurez pas donné sa pâté. Les chats. Il est lourd mais il court son estomac et refait. Tu ne peux pas t'empêcher de penser que sa vie a quelque chose de parfait. Et puisque le corbeau il crâne le moineau, mais tu sais que je veux rêver. Et c'est attraper les souris et comme c'est ton ami, il t'offre ses trophées.
Les chats adorent les souris. Les chats. Un chat arrive quand tu pars.
Bravo à Elliot qui tu as mis à contribution donc pour voilà, la fin du morceau.
Pour la deuxième fois sur Radio Libertaire quand même, Elliot.
Oui. Non, ouais. Alors on va parler de Evrissaire. Mm-hmm. Parce que tu vois le 31 janvier, mm-hmm. on va venir tous en masse au théâtre d'Arcueil, à l'espace Jean Villard d'Arcueil, et on va voir Grand Bazar. Mm-hmm. Alors je voulais savoir quand vous êtes-vous rencontré avec Evrissaire, quelles furent vos premières collaborations?
Alors Eve, on se connaît depuis très longtemps puisque on était dans la même année au Conservatoire de Paris. Donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Elle venait de Strasbourg, enfin elle vient de Colmar, mais elle étudiait à Strasbourg. Et moi, j'étais parisien, donc voilà. Et on s'est rencontrés là dans cette classe où peut-être on n'avait pas forcément une, enfin c'était pas forcément facile de trouver une place. Mais moi, de la première fois que je l'ai vu jouer sur scène, j'avais jamais vu. Bah là, on parlait de détournement de dérive, j'avais jamais vu quelqu'un faire ça en fait sur scène. Ouais, elle jouait avec Yuko Oshima, ça devait être en 2005, le duo Donkey Monkey, c'était le début de leur duo dans un bar, et j'avais complètement mais tout ce qu'on peut faire, mais c'est fou quoi. Et donc voilà, ça c'était un flash de mon côté. Après on a fait des choses ensemble dans le cadre du conservatoire, mais on s'est retrouvés tous les deux membres de l'Orchestre National de Jazz, donc à faire plein de choses ensemble et à monter à force d'être ensemble, on a monté ce duo. Puisque l'ONG permettait de monter des petites formations.
Ah tiens, je savais pas ça. Ah ouais, ok.
Et toujours.
Alors, quelles furent vos premières intentions pour ce duo?
Bah en fait, on avait déjà joué un petit peu en duo et on jouait pas mal de choses de Carla Bley.
Ah oui.
Cette compositrice américaine, enfin canadienne. Non, américaine. Ah je sais plus. Et en fait, on a eu un peu comme devoir, comme contrainte, de s'occuper de quatre compositeurs très différents qui étaient donc Carla Bley, Aphex Twin, Jean-Sébastien Bach, comme tu dis, Ligeti, Giorgio Ligeti.
Oui, alors, quel compositeur qui n'a absolument rien à voir.
Oui, ouais, voilà, en fait, c'était surtout... on a vraiment travaillé sur ces quatre musiques-là au départ. Maintenant, c'est un petit peu différent. C'est juste que ça reflète un peu le spectre qu'on peut avoir tous les deux. En fait, c'est difficile. On n'a pas d'enregistrement. Enfin, on a des enregistrements, mais on n'a pas fait de disque. Mais on est plus dans un registre de performance, qu'à chaque fois, on fait des choses in situ, encore une fois. À chaque fois, c'est pas qu'on recommence à zéro, puisqu'on a une sorte de répertoire, mais on imagine les choses très différemment, suivant le lieu, suivant des gens qu'on invite, suivant la nature de nos échanges aussi, puisque des fois, on se voit pas pendant longtemps, puis après, on se voit tout le temps. Le dernier concert qu'on a fait, c'était au festival... Ah. C'est un festival qui est à Sainte-Foy-la-Grande. Le festival de Thomas Gouban. Ah, j'ai oublié le nom du festival. C'est nul. Mais on est dans une grande maison. Et on a fait faire le tour de la maison au public en jouant dans plein d'endroits différents. Et on a fini au salon par jouer des chansons d'anniversaire, dont celle que on a passé un extrait, parce qu'en fait on s'envoie à chaque fois à nos anniversaires, on s'écrit des chansons d'anniversaire. Donc voilà, on a des choses à la fois très très naïves, très très simples, et des choses pas forcément descriptibles. Ça varie extrêmement, et j'aime beaucoup cette liberté qu'on peut avoir, qui est pas loin de la catastrophe et qui fait vraiment, enfin qui me plaît beaucoup.
Voilà. Mais ouais. Alors, je crois vous avoir vu au théâtre de l'Aquarium dont tu parlais tout à l'heure. Ouais. Et effectivement, on a visité en tant que spectateur, on a visité les coulisses, les loges, enfin des endroits où on a même pas le droit d'aller, je pense.
Ouais.
C'est pour terminer sur la scène, quoi.
Ouais.
Qu'est-ce qui motive cette envie d'explorer ces endroits-là qui sont d'habitude cachés au regard des spectateurs?
En tout cas pour moi personnellement, c'est qu'en tant que musicien ou artiste de scène, en fait, là par exemple sur la tournée de Sans Tambour, le spectacle qu'on fait, le parcours, enfin des fois j'aimerais bien avoir une caméra et voir le parcours qu'on fait, traverser les loges, voir tous les métiers, la machinerie théâtre, elle est fantastique en fait, et c'est un peu des plans de coupe transversaux, enfin des espèces de traversée où tu passes des portes, des couloirs super sombres qui s'ouvrent sur des espaces gigantesques. C'est des labyrinthes. On prend un objet, on le pose là pour la scène suivante. Il y a une espèce de petite mécanique. Tout le monde est très concentré sur ce qu'il a à faire. T'as la costumière qui raccommode, les régisseurs qui se préparent, qui chuchotent à l'intercom. Et en fait, moi, je trouve ça complètement fascinant, et c'est vrai de pouvoir, faire voir ça au public, que ça soit en marchant ou comme on fait dans Apparition, en dévoilant des choses de la machinerie théâtrale que je trouve fascinante, mais qu'on voit plus forcément, puisque c'est à la fois commun et à la fois c'est extraordinaire comme outil, quoi. Voilà. Donc voilà, c'est un truc qui me plaît beaucoup de fonctionner avec les lieux. Voilà.
Et ouais. Et alors, sans divulgâcher, comme on dit, ce qui va se passer le 31 janvier à Arcueil, moi, tu sais, j'en parle souvent de cette salle à Arcueil.
Ah ouais, j'avais envie d'en parler aussi. J'adore.
Oui, parce que tu sais que je travaille dans un cinéma et je vais souvent dans ce cinéma parce que c'est un des moins chers, un très bonne programmation. Et est-ce que vous avez pensé à des histoires comme ça de...
ne serait-ce que. Parce qu'on utilise le hall, on utilise la salle. En fait, j'aime beaucoup. Ben déjà, là c'est l'hiver, mais je pense que ça aurait été l'été, on aurait fait un truc sur le parvis devant, parce que c'est très beau. Il y a des marches qui descendent vers la rue de la mairie. Il y a cette passerelle qui passe par-dessus les voies, qui est magnifique, on dirait avec du romain. Voilà. Et puis j'étais vraiment séduit par cet endroit.
L'aqueduc derrière.
Ouais, là, c'est un aqueduc ou c'est une passerelle, je sais pas trop.
Ouais. Non, c'est l'aqueduc d'Arcueil.
Et il y a, voilà, ce hall, il est très, il est, il est très beau, avec ses poteaux rouges, qui est une espèce de petite arène, qui avec des escaliers qui descendent sur une petite placette au milieu du hall, sur laquelle on va jouer, avec Grand Bazar. Voilà, c'est tout ce que je veux dire, mais il y a une atmosphère dans la salle de cinéma. En plus, là, j'y étais encore cette semaine, il y a des séances où il n'y a personne. J'aime beaucoup cette salle, ses particularités aussi, le fait que sur la scène on y entre par une trappe. Bon, cette trappe, elle est condamnée, malheureusement on ne pourra pas l'utiliser, mais au départ c'était l'idée. Il y a plein de voilà, c'est très, j'aime beaucoup le format, j'aime beaucoup ce qu'on voit. Aussi, on est très proche du bord de scène quand on est au premier rang. Il y a des passerelles à l'arrière. Il y a la cabine de projectionniste. Voilà, tout. Enfin, moi, j'aime beaucoup cet endroit.
Ah oui, il y a les passerelles. Oui, je vois très bien. Ouais. Moi aussi, j'aime beaucoup cet endroit.
Ouais.
Et alors, il y a d'autres formations que tu fais avec l'excellente Evry Serre. Mm-hmm. Ce sont les White et Red Desert Orchestra. Alors, on ne va pas en revenir dessus, parce qu'on en a parlé il y a vraiment très peu de temps avec Tatiana Paris. Et par contre, j'aimerais que tu nous dises quelques mots sur ces musiciennes africaines avec qui vous travaillez. Ouais. Et qu'est-ce qui te marque dans ces collaborations? Qu'est-ce qui te...
Le disque qui est sorti, c'est avec un programme du Red Desert, mais il y en a un autre par lequel on a commencé, qui s'appelle Kogo Baba Sigi.
Ah ouais, excellent.
Qui est avec un groupe de sept maliennes dirigé par Naini Diabaté, qui s'appelle Caleb de la Bande. Voilà. Et donc c'était une rencontre. Moi, j'avais jamais fait de monter de spectacle ou de concert. Avec des gens d'Afrique subsaharienne, et surtout des femmes uniquement, avec leur histoire, avec, enfin voilà. Donc c'est une aventure très chargée émotionnellement, humainement. Enfin, il y a beaucoup de choses. Il y a aussi beaucoup de questions, c'est-à-dire comment on fait de la musique ensemble. Est-ce que c'est possible? Est-ce que la musique est un langage universel? Après, c'est insondable et on n'a pas la réponse. Mais par contre, on est, enfin, toujours très heureux de se retrouver. Et je pense qu'on est beau sur scène et la musique sonne bien ensemble. Ouais, donc c'est je pense qu'il n'y a pas forcément de mots pour décrire ça, quoi. C'est complètement à part d'ailleurs ton...
Ah bah, tu sais que ça se ressent en public. Hein. Ouais, bien, tu dis des très beaux mots, hein, là, c'est bien. Bah, je propose qu'on ait...
Alors oui, là du coup c'est l'autre programme, voilà, Rythmia, qui est donc pas avec ces musiciennes maliennes, mais avec trois percussionnistes originaires du Burkina Faso et qui habitent en France. C'est Omarou Bambara et les sœurs Ophélia et Mélissa Ié, plus l'orchestre, la base de l'orchestre, voilà.
Le Red Desert, Orchestra, ouais. Donc dirigé par Evry Serre. Et on écoute le morceau « Ça ».
Thank you.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres qui va bientôt s'achever. Nous sommes avec Antonin Trihoang, clarinettiste. Et alors, on vient d'écouter Red Desert Orchestra. Le morceau s'intitulait « Ça ». Alors, Antonin, quelles sont tes prochaines idées de création, même à l'état de... Comme je sais que tu as plein d'idées et que tu es assez créatif, est-ce qu'il y a des choses que tu as dans la tête qui ne sont pas forcément avancées et quelles sont tes idées à venir?
Pas mal de choses qui sont un petit peu comment dire, qui sont en train un peu de se faire, de s'inventer, mais c'est assez lié à de la collecte. Enfin, je parlais tout à l'heure du fait d'être un peu compositeur public, entre guillemets, mais c'est d'utiliser... soit d'écrire avec des désirs de gens ou des souvenirs ou des choses, voilà, d'avoir ces échanges-là, de voir ce que ça peut faire. Et ça, c'est, en fait, ça se retrouve dans plusieurs futurs projets, dont un avec l'orchestre La Sourde, qui serait à plusieurs compositeurs de vraiment de rencontrer des gens et d'écrire la musique soit de leurs rêves, voilà. Tout simplement.
Ah, super.
Et un autre projet, il y en a d'autres, bon, je sais pas si tout se fera, mais avec un trio qui s'appelle Fake Books, qui est aussi de l'ordre de la collecte, et qui serait de manière utopique de reprendre toutes les musiques du monde. Voilà, mais donc faut bien commencer par quelque part. Donc l'objectif, c'est ça.
Ah bah super.
Voilà, ça veut dire à la fois la musique que t'as inventée hier, comme la mélodie que voilà, enfin toutes sortes de choses, Bob Marley, voilà, fou.
Eh bah c'est ambitieux, pour le moins. Eh bah bravo. Et alors, est-ce que tu as des dates de concert à nous, ou de pièces de théâtre d'ailleurs, à nous annoncer?
Alors oui. Alors ce mois-ci, nous jouons la semaine prochaine le spectacle Sans Tambour à Pau. Donc il y a cette création Apparition qui est le 31 janvier. Donc juste après la manif, vous continuez votre marche et vous allez jusqu'à
ce marche magnifique. Triomphante, évidemment.
Voilà, marche
triomphante. Nous aurons gagné. Donc, voilà,
avec les yeux pas trop humides, j'espère, jusqu'à l'espace Jean Villard où... Arcueil, où il y aura donc Grand Bazar plus Novembre Apparition. Le 11 février, et ça je voulais passer un extrait aussi, mais j'ai pas. Je joue avec la chanteuse, performeuse, percussionniste, tout ce qu'on. ATJ Euser, qui fait un spectacle sur un peu comment se déroule un mariage en Turquie. Voilà, donc on fait des musiques turques, mais pas du tout comme des Turcs, mais et plein de choses, voilà. Et ça, c'est au Théâtre de l'Aquarium, au festival Bruit, le 11 février.
Ah oui, exact. Et ouais. Nous l'avions reçu, elle était là.
Et exactement, on avait fait un morceau pour fêter la magnifique année 2021. Et pour finir, nous jouons le spectacle Sans Tambour au Bouffe du Nord. Du 21 février au 5 mars. Voilà.
Très bien.
Ça, c'est dans les choses les plus imminentes.
Que nous proposes-tu pour terminer l'émission ?
Eh bien, un morceau du disque de novembre à venir. Donc, le disque s'appelle Encore. Et je voulais juste dire que c'est un double CD, puisqu'il y a un disque du groupe Novembre et un disque qui a été conçu par Marc Baron, qui nous a enregistré et qui a fait une pièce électroacoustique. Donc, c'est complètement différent. C'est comme une sorte de remix de notre musique et c'est magnifique. Donc, là, le morceau que je vais vous faire écouter, c'est un morceau qui s'appelle Klaxon Pad Carnival. Voilà.
Bah merci beaucoup Antonin.
Merci à toi.
Et puis à très bientôt à Arcueil, bientôt. Hein, ça c'est sûr.
Ouais, super.
Et puis la semaine prochaine, nous on reçoit Bani Kochnoudi, qui est cinéaste iranienne, et il sera question de la révolution qui a lieu à l'heure actuelle en Iran.
Et demain il y a
Iran.
Une manif. Demain il y a une manif.
Ah oui, il faut le dire. Alors oui, dis-nous, c'est où?
Bah, je sais pas, parce que moi j'ai répété il y a pas longtemps à l'AERI, ils étaient en train de préparer les banderoles. Et normalement c'est demain, je crois que c'est Place des Fêtes. jusqu'à République, un truc comme ça.
Et ben on y sera alors, on y sera. Merci beaucoup Antonin, à bientôt.
À bientôt, merci.
Allez, salut, à la semaine prochaine.